protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel. Bonjour Yolande Fourchard-Gounel.
Bonjour Nathalie.
C'est moi qui vous accueille, c'est la seule émission que je ferai sous le nom de votre émission.
Ok, d'accord.
Hein, voilà. Donc on va un peu vous présenter quelle émission vous allez proposer, puisque nous sommes aujourd'hui le mardi 10 septembre, que c'est votre anniversaire, entre autres.
Et donc, oui.
Bon anniversaire.
Merci.
C'est chouette de commencer en plus le jour de votre anniversaire.
Ah voilà, oui, oui.
On va expliquer comment on s'est connus. Il y a quelques mois, un petit peu.
Ouais. Oui, quelques mois.
Voilà, quelques mois au courant du printemps. J'ai eu un coup de foudre amical pour quelqu'un qui venait me parler de choses très raisonnables et qui a illustré tout ça par du rock.
Voilà, c'est surtout le rock, j'ai l'impression, qui t'a... Voilà, qui...
Comment va s'appeler votre émission? Vous allez nous raconter tout ça. Donc, j'ai fait une longue liste de questions. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui êtes questionné. Et à partir de la semaine prochaine...
Je suis sur la sellette.
Exactement.
Bon.
La semaine prochaine... vous aurez un invité. Toutes les semaines, vous aurez un invité. Donc, nous sommes le mardi 10, il est 12h20 et place à quelle émission, Yolande?
Alors, l'émission s'appelle « Un protestant peut en cacher un autre » et le titre reflète la diversité des trajectoires dans le protestantisme. Il y a des gens qui sont bien installés là-dedans, qui sont protestants de père en fils et même très, très loin en deçà. Et puis, il y a des protestants nouveaux, il y a des protestants qui doutent. Il y a des protestants qui sont protestants, mais qui n'osent pas se dire protestants parce qu'ils n'ont pas de papier protestant. Il y a des protestants qui sont en révolte. Il y a des protestants qui ont perdu la foi. Il y a des protestants qui l'ont retrouvée. Il y a des protestants qui sont incroyants. Et c'est tout cela à qui je veux donner la parole.
Et en plus, dans nos auditeurs, il y a plein de gens qui ne sont pas protestants, qui vont peut-être justement, à travers cette émission, à travers ces questionnements que vous allez poser à toute cette diversité, comprendre mieux aussi l'univers des protestants, hein, qu'on connaît mal. Moi, je ne le suis pas. Je suis rentrée à la radio protestante il y a 6 ans maintenant, Yolande. Et c'est vrai que petit à petit, oui, j'ai rencontré plein de profils différents, plein d'idées différentes, plein d'envies différentes. Et je pense que si j'avais eu votre regard comme porte d'entrée, ça m'aurait fait gagner du temps. Voilà. Mais c'est bien aussi de prendre le temps des choses.
Tout à fait, tout à fait.
Ce titre, il vous est venu comment?
Il m'est venu, je cherchais justement un titre qui puisse refléter la diversité. Et il m'est venu un peu par hasard. Avant de m'endormir, tout d'un coup, paf, j'ai noté plusieurs titres. Et puis le lendemain matin, j'ai regardé, j'ai trouvé que celui-là était pas si mal que ça. Bon. Voilà, donc
un petit rappel donc pour nos auditeurs. On s'est rencontrés il y a quelques mois. Vous veniez parler d'une association et l'échange est marrant. Vous étiez venu avec plein de jeunes aussi, de gens qui étaient en
carrière. Il y avait des jeunes, non, mais c'était, ouais.
Ils étaient partis. Voilà, c'était une matinale.
Voilà,
c'était une matinale. Et puis bon, on a discuté. Et puis à un moment, les invités de la matinale doivent choisir une chanson. Vous nous faites du rock. Et puis on reste en contact parce que bon, c'est vrai que c'est une des richesses de la radio, c'est que c'est un lieu de contact et d'échange. Et puis à un moment, je vous avais dit, vous avez une voix sympa, si un jour vous avez envie, vous êtes la bienvenue. Puis un jour, j'ai eu un petit mot sur WhatsApp, j'ai envie.
Voilà, tout à fait.
Quel est votre rapport à la radio, justement aux médias? Est-ce que vous êtes déjà, est-ce que vous écoutez la radio beaucoup? Ou est-ce que vous êtes plutôt télé?
Télé, non, j'en ai pas.
Ça simplifie comme ça.
Voilà, radio, pas tellement, je suis plutôt Internet. Mais bon, je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Sinon, je n'ai pas fait beaucoup d'émissions. J'en avais fait une il y a longtemps pour Amnesty International. Ouh, j'avais 25 ans, donc ça remonte à un certain temps. J'en ai fait une autre pour la révocation de l'édit de Nantes. On a fait une commémoration, donc là, au micro de Pierre Zenz, qui était votre prédécesseur. C'est tout. Et puis, quand je suis venue donc, pour l'association dont j'ai parlé.
Donc la radio, si vous la connaissiez du temps de Pierre, vous la connaissez depuis longtemps quand même, Radio FM+.
Oui, mais je n'ai pas participé spécialement. Non, c'était...
Et puis, Pierre est parti il y a longtemps, parce qu'après, il y a eu Guylaine et il y a eu Redouane pendant 7 ans.
Ouais.
Je pense que ça fait une quinzaine d'années que Pierre a dû quitter Montpellier. Il y a Yann qui fait notre technique aujourd'hui, donc de l'autre côté. Bonjour Yann, merci
Bonjour.
De nous accompagner et il se rappelait très bien du Pasteur Zenz.
D'accord.
Donc, on partage cette matinale ensemble, on a envie de travailler ensemble. Et donc, ça fait 2 mois qu'on réfléchit beaucoup toutes les deux à qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer dans cette émission, dans Un protestant peut en cacher un autre. Donc,
pourquoi pas une autre, d'ailleurs.
Oui, parce
qu'il va y avoir des femmes.
Et alors là, on s'écrit tous les jours. Il y a WhatsApp qui implose. Des rencontres, oui. Ça vous avez envie des rencontres avec des gens.
Oui, des gens. Des gens, pas... Alors, il y a des pasteurs, il y a des théologiens, il y a les gens de tous les jours qui se posent des questions, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont un rapport plus ou moins proche. Il y a des gens qui ne seront pas protestants ou qui ne se disent pas protestants, mais dans lesquels j'ai trouvé un peu de protestantisme, des questions protestantes. Des gens qui m'ont dit « Ah, mais si j'étais croyant, je serais protestant ». Moi, je les considère comme protestants. Enfin,
Oui, bien sûr.
Dans ma tête, hein, je ne leur dis pas. Ils sont libres de se définir comme ils veulent. Mais voilà, le protestantisme est extrêmement divers. Sous la Troisième République, les catholiques disaient 3 protestants, 4 opinions. C'était méchant, mais en même temps, ce n'était pas faux. Alors, c'était politique. Hein, mais bon, il y a quelque chose de vrai.
Et en plus, à travers votre regard et votre ton, ce qui m'a plu aussi, et ce qui a plu aux gens qui étaient là lors de cette matinale, c'est-à-dire d'une grande franchise, d'une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire que vous n'avez pas un regard ni sur les uns ni sur les autres.
Oh ben non, je ne juge personne. Bon, des fois, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit. Je peux le dire, mais je ne juge pas les personnes. Je peux juger des comportements ou des propos. Mais bon, les personnes... Bon, je suis protestante, donc quelque part, je suis quand même chrétienne, même si des fois, je peux être comme les autres, hein, c'est-à-dire...
Mais vous n'étiez pas, Yolande.
Voilà.
Alors, ça, c'est intéressant dans votre chemin de vie.
Oui, je suis née, si on peut dire, dans une... Enfin, oui, je suis née, ça, on peut le dire, il y a effectivement un certain temps. Dans une famille catholique, j'étais baptisée catholique. J'avais une grand-mère qui m'emmenait à la messe, qui a eu beaucoup d'influence sur moi. Mes parents, non. Mais ma grand-mère, oui. Et j'étais chez les sœurs au collège. Mais je ne connaissais pas du tout le protestantisme. Pas du tout. En plus, j'étais dans l'Est, dans le Nord-Est, à Saint-Dizier. Et curieusement, l'école était à côté du temple. Mais on ne savait pas ce que c'était que le temple. C'était même démoniaque. Mmh, mmh. Ma petite sœur disait que quand on marchait devant ce bâtiment, la terre s'ouvrait et on pouvait être englouti. Donc, oui, c'est du sérieux, je veux dire. Hein. Bon. Et puis, j'ai fait des études d'histoire. Et j'ai découvert le protestantisme par la réforme, l'étude de la réforme. J'ai dit, tiens, ça m'intéresse. J'ai pris le numéro de téléphone du pasteur de Saint-Dizier, qui était le pasteur Cormouls-Houlès, François, qui est mort maintenant, qui a eu une grande influence sur moi. Et qui, je suis allée le voir, je lui ai demandé, est-ce que vous avez la vérité ? Il m'a dit non. J'ai dit, c'est bon. Mmh. Et donc, je suis devenue protestante à partir de ce moment-là.
C'est marrant ce que vous nous dites, parce que quand j'ai enregistré l'émission de revoir à Luc-Olivier Bosset, je lui ai... comme ça, qui se posait des questions naïves. Et c'est pareil, lui aussi, quand le mot que vous venez de dire, la question que vous avez posée, est-ce que vous savez ? Ben non, je ne sais pas. Luc-Olivier m'a fait à peu près la même réponse.
Oui, ouais. Ben c'est une des caractéristiques du protestantisme réformé, si on peut dire.
Alors c'est marrant, parce que moi, quand j'étais gamine, le temple, c'était surtout un lieu, c'était une religion. Alors moi, déjà, les protestants, c'était d'abord la Saint-Barthélemy. Voilà. Bon, en plus, on est rue Saint-Barthélemy.
Oui, hein, voilà. Oui, j'ai vu le clin d'œil.
Bon. Je ne sais pas, c'est l'Amérique qui nous a fait un clin d'œil ou pas. C'était ça, d'abord. Ouais. Ouais, c'était vraiment ça. Bon, moi, j'adorais la reine Margot, ça, j'adorais ça. L'histoire.
Ouais. Voilà.
Et puis après, c'était une idée de simplicité du culte, c'est-à-dire que c'était vraiment, on rentrait dans un temple, je me rappelle, je devais avoir 12-13 ans, avoir un concert de luth dans un temple dans la Drôme, et être frappé par le dénuement de l'intérieur, voilà. C'était ça pour moi le protestantisme, et puis un petit peu tout ce qui se passait en Hollande, alors l'argent, les diamants de terre, enfin tout ça, il y avait un peu de ça aussi.
Ah oui.
Oui,
c'est assez curieux.
C'est bizarre, voilà, c'était ça la vision que j'avais. Alors la foi, tout ça, je n'y connaissais rien du tout, et surtout ce que je ne connaissais pas, et dont on parle plus maintenant, il faudra peut-être que vous nous expliquiez ça, Yolande, c'est les évangélistes. Voilà, c'est une question qui est qu'au début, moi, je ne faisais pas bien la différence. Et puis, notamment avec les États-Unis, voilà, ça, j'aimerais qu'un jour vous nous l'expliquiez.
Alors, juste une petite parenthèse. Évangéliste, ça veut dire quelqu'un qui proclame l'évangile. C'est un adjectif ou un nom. Évangélique, c'est le nom. Comme evangelical aux États-Unis, là, c'est le courant qui est plus, disons, axé sur « je possède la vérité » et sur « la Bible donne la vérité », etc. Donc, on parle du courant évangélique. D'accord. Courant réformé, courant évangélique.
Un jour, ça sera une bonne thème.
Mais je vais recevoir une pasteur évangélique. C'est prévu dans mes...
On parlait des gens, on parlait aussi des rencontres qu'on allait pouvoir écouter dans Un protestant peut en cacher un autre. Ça peut être aussi un lieu. Par exemple, là, on a réagi, enfin, vous m'avez alerté sur le fait que le premier, évidemment, il y avait l'Assemblée du désert où il y allait, et que bah, c'était un peu tard pour organiser quelque chose. Par contre, visiter le musée du désert, aller aussi prévoir d'y aller l'année prochaine, vous mettre dans des lieux et dans des moments protestants, c'est quelque chose aussi que vous aimeriez nous proposer.
Oui, alors dans le cadre de cette émission ou dans le cadre d'une autre émission, pourquoi pas faire quelque chose d'un peu historique aussi. Moi, j'aimerais bien qu'on explique un petit peu aux gens qui ne sont pas protestants, qui ne connaissent pas ou qui sont protestants mais qui n'ont pas eu beaucoup d'informations à ce sujet-là, le protestantisme au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, de nos jours. Ça, j'aimerais bien le mettre en place, oui.
Il y a un large choix de thèmes, c'est-à-dire que vous ne pensez pas que vous serez un jour en panne, il y a toujours de la...
Oh non ouais. Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Non. Ce qui m'inquiète, c'est plus les problèmes techniques, les problèmes de trouver des créneaux, etc. Les thèmes, non. Il y en a. Vous discutez avec un protestant, n'importe lequel, et vous trouvez aussitôt une gamme de thèmes à discuter qui est impressionnante. Enfin,
L'identité protestante, c'est Venol. Vous la connaissez bien.
Je suis protestante Cévenol. Je suis née catholique dans la Champagne, mais je suis protestante Cévenol. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Parce que je suis devenue protestante. Après, j'ai rencontré mon mari, un Gounel, et je vis dans les Cévennes. Et les Cévennes, ça a été mon imprégnation. Je marche dans les Cévennes, je fais beaucoup de randonnées, et je suis au désert, je suis avec les Marie Durand, je suis Cévenole, je ne suis pas la seule.
C'est important ça, cette identité-là, justement, enfin, parce que moi j'ai une partie de moi qui est dromoise, du côté d'Ulfi, où il y a une identité protestante très 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 forte dans la Drôme et le Dauphiné, hein, ouais. Tout le Dauphiné était très protestant. Mais c'est vrai que vous parliez que vous avez fait des études d'histoire, je pense que dans la culture commune ou la mémoire commune française, les protestants, c'est Cévenol, c'est évidemment les Camisards, avec tout aussi, excusez-moi parce que c'est pas du tout le folklore, hein, c'est pas un folklore, tous ces héros, toute l'histoire de cette résistance quelque part.
Oui.
C'est quelque chose qui vous a touché tout de suite, ça ?
Oui. Bah, peut-être parce que c'est peut-être mon esprit qui est assez porté un petit peu à questionner toujours l'autorité. Bon, alors cause ou conséquence. Hein, mais c'est vrai que je me suis retrouvée dans le protestantisme et aussi par l'histoire. Donc l'histoire du XVIe siècle. Donc tous ces gens qui ont combattu pour la liberté de culte, donc pour moi c'est imprégné en moi maintenant.
Parce qu'il faut rappeler quand même, évidemment pour nos auditeurs protestants le savent par leur culture, mais que pour les autres, pour ceux qui ne savent pas, que les Camisards, enfin ils avaient les dragonnades de Louis XIV, hein, c'était Louis XIV, Louis XIII.
Louis XIII d'abord. Oui. Ben Louis XIV, ayant exterminé pratiquement tout le protestantisme, a révoqué l'édit de Nantes en disant il n'y a plus de protestants, ce qui était un peu exagéré.
Ils étaient où alors ? Planqués dans les Cévennes, mais une partie en Suisse, c'est à ce moment-là.
Moment de la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu deux réactions. Il y a eu le refuge. Donc c'est la Suisse, mais c'est pas que la Suisse, c'est les Pays-Bas et c'est l'Afrique du Sud. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui ont des noms français en Afrique du Sud. Ce sont des descendants des Huguenots. Et puis, il y a eu le désert. Donc, le désert, eh bien, c'est les cultes clandestins. Mmh. Et ceux-là ont énormément souffert. Ceux-là étaient des petites gens. C'est ceux-là qui ont pris des armes. Et les armes, c'était des fourches. Ce n'était pas des fusils, ils n'avaient pas les moyens. C'était des fourches. Mais en même temps, ils prophétisaient. C'était des gamins, des gamins de 16 ans, boulangers, qui prophétisaient. Les pasteurs suisses qui étaient réfugiés en Suisse n'étaient pas toujours très très chauds par rapport à la prédication de ces gamins, qui étaient en plus portés par l'Esprit Saint, avec toutes les dérives théologiques que ça peut entraîner.
Et on a la chance d'en avoir dans la région beaucoup. Alors bon, quand on vous entend, on comprend que vous, la mémoire, vous l'avez, vous. Mais des gens, je sais qu'on a parlé, bon là, c'est quelqu'un qui vous est proche, que vous allez bientôt recevoir, André Gounel. Quand je suis arrivée ici, vous discutiez avec le pasteur Fréchet. Vous avez beaucoup, beaucoup comme ça de liens avec des gens qui peuvent en parler. Il y a encore des gens pour qui cette mémoire est une mémoire vive.
Oui, je crois que dans le protestantisme, et même chez les gens qui ne sont pas protestants, mais qui sont Cévenols, il y a cette idée de résistance. Des fois, on voit des groupes qui se forment et qui parlent de résister, qui n'ont rien de protestant. Mais le pays porte un peu ça. C'est un peu... Voilà.
Oui, est-ce qu'il y a une différence, par exemple, entre justement tous ces croyants des Cévennes dont on vient de parler, et puis ceux, notamment par exemple Nîmes, qui était une ville protestante, mais assez riche quand même, et ceux des plaines ou ceux des villes?
Alors, il y a une...
Excusez-moi, je finis juste,
oui,
mais
pardon.
Quand on a commencé à me parler de tout cet univers-là, on m'a parlé des banquiers Lénard sur Montpellier, la famille Lénard. Hein. Voilà, il y avait quand même aussi des grosses fortunes. Ça, c'est assez loin du désert. Bon, c'est vrai qu'il y a un siècle et demi entre les deux aussi. Hein, donc, c'est ça. Mais ça, c'est aussi intéressant de parler de cette partie-là du monde protestant.
Oui, il y a la partie bourgeoise, il y a la partie riche, il y a la partie mais qui cohabitait avec les gens. Je ne veux pas donner une image idyllique. Hein.
Oui, non, bien
les
sûr,
protestants ne sont pas meilleurs que les
on
autres.
On va apprendre à vous connaître, ce n'est pas votre genre, ça.
mais y avait, par exemple, en parlant de personnes puissantes qui étaient en lien avec les Cévenols, il y avait quand même la reine Élisabeth Ier d'Angleterre qui a financé la révolte des Camisards, parce que pendant ce temps-là, les armées de Louis XIV, elles étaient prises dans les Cévennes, et les Cévenols ont au moins eu cet avantage que pendant ce temps-là, les Anglais ils tapaient sur l'armée de Louis XIV. Et Louis XIV a perdu la guerre
en partie à cause des
Cévenols. Donc oui, il y a en même temps, il y avait la foi commune aussi.
Mais c'est vrai que c'est tout ça qu'on va pouvoir aborder. Donc vous voyez, vous avez une belle année riche avec Yolande Fourchard-Gounel devant vous dans cette belle émission « Un protestant peut cacher un autre ». À chaque fois, je mets le « une ».
Ah ben, vas-y.
C'est Radio Nana, moi, ici.
Oui, ben, il n'y a pas...
on va marquer une pause musicale.
Absolument.
Que vous avez choisie pour nous.
Tout à fait.
Et que Yann va lancer. Vous nous en dites un mot avant, après?
Oh bah, c'est The Fray, c'est un groupe de rock que j'aime bien, et c'est Half a Million Acres, ou 500 000 Acres. C'est un morceau assez poétique, de rock, assez doux, ça me change un peu.
Voilà.
C'est
rien que pour m'embêter, parce que j'ai dit que vous aimiez le rock, vous avez pris un truc doux.
Non mais c'est du rock, mais c'est doux.
D'accord, voilà. On écoute. À tout de suite.
Across your landscape, and I can see for miles. My outstretched hands run through your wildflowers. But the valleys of your shadow hide a mystery untold. Out in the desert where you never go, you're a half a million acres lying. Will I ever know? by anyone. There's another million acres lying underneath your waves. Will I ever know?
Et vous êtes toujours sur Radio FM+, dans la nouvelle émission de Yolande Fourchard-Gounel. C'est Nathalie au micro pour lui souhaiter la bienvenue. On n'allait pas la balancer comme ça toute seule sur les ondes, Yolande. Donc je suis ravie. Je suis ravie de vous accueillir, Yolande. On a parlé de pas mal de choses sur la prochaine émission, sur les sujets, sur les rencontres, sur les gens que vous alliez nous faire rencontrer. Mais j'aimerais que dans cette deuxième partie d'émission, on parle aussi un petit peu de vous. Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie ?
Beaucoup de choses. Je suis très curieuse et j'aime aller au fond des choses. Alors, j'ai commencé par l'histoire contemporaine. Et puis, je suis remontée parce que je voulais toujours en savoir plus. Alors, j'ai fait de la préhistoire. Et puis, après, j'ai fait de la géologie parce qu'avant les hommes, il y a aussi des choses qui sont passées. Et puis, après, je fais de la physique parce que je veux toujours comprendre les choses. Alors, comprendre les choses et puis comprendre les gens. Je crois qu'en fond, ce qui me motive, c'est une curiosité insatiable.
Les gens, tous les gens, ou est-ce que c'est l'âme humaine qui vous intéresse, c'est-à-dire qu'elle soit des fois sombre ou lumineuse, ou est-ce que vous êtes plutôt à dire les gens sombres, à la rigueur, ne perdons pas de temps et allons vers la lumière?
Je crois qu'on est tous un peu sombres. Il y a des gens qui sont plus sombres que d'autres, qui apparaissent plus sombres. Mais je crois que, enfin moi, si je me regarde, il y a des moments où je sais que je casse les pieds aux gens. Je sais qu'il y a des gens qui m'aiment pas parce que je peux avoir des commentaires ou des choses comme ça. Donc on est tous sombres. Donc tout le monde m'intéresse. Bon, évidemment, j'irai pas interviewer des gens comme Hitler ou des gros méchants. J'irai pas. Ou des gens qui m'intéressent pas comme Trump ou des gens comme ça. Mais on va pas aller plus loin dans les comparaisons. Mais voilà. Donc je ne juge pas les gens.
On parlait des passions, on peut parler des loisirs. La littérature, par exemple.
Vous aimez lire ? Oui, je lis. Je lis beaucoup de livres en anglais, en américain.
Vous êtes bilingue complètement ?
Oui. Et j'aime bien la littérature anglo-saxonne. Je suis assez proche du tempérament anglo-saxon. Néo-zélandais aussi,
La poésie, ça vous intéresse ?
Non. Non, je suis pas. Sinon, comme j'aime bien regarder des séries américaines, ouais. Star Wars, des conneries. Il faut reconnaître, hein, c'est pas d'un niveau culturel très élevé, mais ça me détend.
Je suis
très science-fiction, fantasy, Marvel.
Moi j'ai la chronique littéraire sur la radio et c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, juste avant l'été j'ai reçu Drake qui écrit des bouquins de fantasy et c'est assez rare que je puisse recevoir des gens qui écrivent de la fantasy. Alors lui c'est les dragons. Parce qu'il y a des dragons partout.
Voilà. Il faudrait que je regarde.
Très chouette.
Justement, parler d'âme noire. Alors, les dragons, c'est...
Souvent, dans les fantaisies, on trouve l'âme noire.
Voilà.
J'ai deux auteurs qui viennent régulièrement, Drake et puis Eric Carwatt, qui a écrit tout un cycle avec des monstres.
Alors justement, peut-être que ce côté sombre dont on parlait tout à l'heure est bien représenté dans le monstre, le méchant. Je suis très, très intéressée par Star Wars, Lord of the Rings, etc.
C'est un univers. Je connais peu, c'est vrai. Musique, alors, on a compris le rock depuis toujours.
Oui, quand j'avais 16 ans, j'étais proche de groupe rock avec des copains. Enfin, bon.
Vous n'avez jamais fait de musique, vraiment?
Non, je fais un peu de guitare, je gratouille, mais enfin, ce n'est pas de la musique.
Peinture, couture.
Peinture un peu, couture, pas vraiment.
Peinture, couture, confiture.
Non. Alors la cuisine, non. Je ne touche pas. Je ne touche pas une casserole, je ne sais pas faire la cuisine.
Et puis, il y a un sujet que je voulais aborder avec vous, dans vos passions aussi, et ça rejoint un peu votre regard sur l'autre, c'est l'univers associatif, justement. Ici, c'est une radio associative. Hein. Faut bien rappeler que c'est une association de gens qui veulent avoir des passions communes. C'est pas un président qui crée son association. Je rappelle un petit peu le principe même de l'association. Fois, on se retrouve maintenant dans des associations où c'est quelqu'un qui...
m'en parlez pas.
Voilà, c'est extrêmement descendant. Non, c'est des gens qui doivent partager. C'est même l'idée même de l'association, c'est quand même le partage. Vous avez eu une vie riche.
Oui. J'ai pas eu une carrière très très riche. J'ai pas eu une carrière suivie. Là, je vais prendre ma retraite. Je vais pas voir grand chose, mais enfin, ça fait rien.
Il y a eu un moment où vous avez vraiment bossé, vraiment.
Ah oui.
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 Alors
oui,
c'était
oui.
quoi?
Bah, j'ai été prof, mais vacataire, contractuel. Il fallait m'engager éventuellement, mais bon, pour des raisons diverses, j'ai refusé.
Donc, sinon, petite retraite.
Petit boulot, un peu tout. Voilà.
Et donc, on en revient à l'associatif.
Voilà. Alors, par contre, depuis l'âge de 22 ans, je crois, Amnesty International, mes débuts dans un groupe local. Et puis, j'ai fait de tout, de l'écolo, de l'alphabétisation, des relations humaines, le protestantisme, conseil presbytéral. Alors, conseil presbytéral, Lunel.
Lunel, d'accord.
Lunel. On était à Lunel à ce moment-là.
Des enfants,
trois fils. Oui.
Dont un qu'on apprendra à connaître un jour.
Voilà, un pasteur, un professeur de lettres classiques et puis le dernier qui est dans la finance.
Ah, là, c'est éclectique.
Ah, complètement.
Des rapports justement sympas avec la famille, tout ça. Vous êtes sereine par rapport à tout ça ou
La famille, c'est la famille. Ouais. Hein. Des fois, c'est pas simple, la famille. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent. Il y en a qui vont se reconnaître si je dis que c'est pas toujours facile.
C'est pas toujours facile, mais
c'est riche.
C'est riche, mais c'est pareil en association, dans l'association, qui est une des fois comme une famille, c'est pas toujours facile,
non.
Et pourtant c'est riche.
Ouais.
Sinon, on se barrerait plus vite. Si on reste, c'est qu'on y trouve.
Voilà.
Hein. Yolande, il nous reste une bonne dizaine de minutes. Et j'aimerais avoir aussi votre ressenti. Je vous demandais si vous écoutiez la radio, alors plutôt sur Internet. En ce moment, on est quand même dans un monde... je ne sais pas si quand l'émission va passer, parce qu'on l'enregistre quelques jours avant, il y aura un Premier ministre ou pas. Mais on est quand même dans un monde de dingue en ce moment.
Oui.
La période Covid, par exemple, comment vous l'avez vécue?
La période Covid, c'était assez curieux parce que je revenais de Guinée où j'avais passé avec mon mari. On avait fait un trip, on avait eu des contacts avec les Guinéens. Et puis, je me suis cassé deux jambes, trois os, le dernier jour. Donc, j'ai passé au lit d'abord parce qu'avec deux jambes cassées, ce n'est pas facile de se déplacer. Et puis, je commençais à remarcher, confinement. Ça ne m'a pas trop gênée. Parce que j'étais justement en rééducation, voilà. Le monde de dingue, alors le monde de dingue, c'est vrai. On est dans un monde de dingue, mais je suis historienne, le monde a toujours été un monde de dingue. Seulement, on est plus au courant et on a plus de vision sur ce qui risque de se passer. Réchauffement climatique. Bon, les gamins qui sont nés en 30, dans les années 30, ils n'avaient pas une belle... Les Juifs, nés en 35, ils n'avaient pas un bel avenir devant eux. Les Juifs polonais, ils ont tous été exterminés. Bon, le monde a toujours été un monde de dingue. Seulement, actuellement, ce qui change, c'est qu'on est au courant de ce qui va se passer.
C'est les réseaux sociaux. Là, c'est une grosse révolution pour vous, les réseaux sociaux, par exemple? Vous en prenez,
non,
vous en
laissez. Moi je prends et je laisse, ça ne me gêne pas plus que ça. Mais le réchauffement climatique, c'est scientifique. On sait que ça va se produire. Et c'est angoissant, c'est terriblement angoissant.
J'ai l'impression d'une accumulation quand même. Là, il y a un militaire, un général, qui vient d'avoir une intervention en disant que le monde occidental allait quasiment... Enfin, que ça allait être terrible les années à venir pour le monde occidental. Il les taille d'ailleurs en disant qu'on est le roi du monde depuis la nuit des temps et que là, à force d'ignorer une partie du monde, ça allait nous retomber
mais
grave dessus.
Les civilisations, elles sont mortelles. Hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est je sais plus qui.
Il n'y a pas longtemps, même quelqu'un que je n'aime plus, que j'ai beaucoup aimé, mais qui le disait, c'est Michel Onfray.
D'accord. Oui. Et donc, il faut, par exemple, au moment de la chute de Rome, ou au moment du christianisme, le christianisme, j'avais lu un livre, mais alors là, j'ai pas le titre, un roman, qui racontait une famille romaine avec ses dieux, comment elle a vécu l'arrivée du christianisme. C'était épouvantable, c'est la fin d'un monde. Donc je pense que depuis la nuit des temps, le monde est fou.
Bon. Et comment justement une femme, on comprend ça de vous depuis une demi-heure qu'on est ensemble, Yolande Fourchard-Gounelle, c'est que vous êtes une femme curieuse, vous êtes une femme ouverte, vous êtes une femme qui regarde le monde, qui vous intéressez aux autres d'une façon générale, et puis en plus qui a une culture pour tout ça, hein, l'histoire. Mon Dieu, que j'aimerais que l'histoire soit mise plus en valeur, on éviterait peut-être de refaire les mêmes bêtises.
Oui, hein, voilà. Oui.
Moi j'ai eu la chance d'avoir des profs d'histoire formidables, hein, qui m'ont vraiment éveillée, et je suis une passionnée d'histoire aussi. Comment justement votre conscience écologique aussi, vous l'avez abordée. Hein, on est monté dans une voiture électrique hein, quand même. Quand je suis allée. Alors, je sais pas, vous mangez de la viande ou pas?
Oui.
Un petit peu.
Un petit peu. J'ai des panneaux solaires.
Ah voilà, ça récupère. Voilà, mais qui avait toute cette démarche quand même, ce regard sur la vie, et en même temps qui est croyante, et qui en plus est devenue dans cette religion. Comment on peut être apaisé Est-ce que justement la foi vous aide à être apaisée?
La foi ne m'aide pas dans le sens où je ne vais pas dire Dieu va arriver là puis il va régler nos problèmes. Je ne pense pas que Dieu va régler nos problèmes, c'est à nous à les régler. Mais par contre, qu'est-ce que c'est que d'être croyante? D'être croyant? Alors il y a des gens qui ont la foi du charbonnier. Et puis il y a des gens qui se disent peut-être que ça aurait un sens si. Voilà, moi je suis plutôt dans cette perspective-là. C'est-à-dire que pour moi, il y a un espoir, il y a quelque chose, il y a une relation, il y a une relation avec les autres. Et pour moi, c'est pas un mystère si on peut avoir d'excellentes relations avec les autres. Il y a des moments où on est en connexion l'un et l'autre, pas seulement dans l'amour, mais aussi dans l'amitié. Et pour moi, ça, c'est quelque chose du divin. Ça ne s'explique que comme ça. C'est mon opinion. Donc, je crois que il y a, en tant que protestante et en tant que protestante relativement convaincue, même si j'ai pas la vérité, je crois pas vraiment à la vérité. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Il y a quelque chose de divin en l'homme. Et au moins, c'est intéressant de le vivre.
Ça, malgré ce constat qu'on fait que le monde est fou, cet espoir-là, il est très fort.
Oui, il est peut-être d'autant plus fort que le monde est fou. Oui, peut-être.
Vous pensez, vous croyez à notre puissance individuelle? C'est-à-dire qu'en définitive, nous tous, on est beaucoup plus acteurs, ou on pourrait être beaucoup plus acteurs qu'on ne le veut?
Ah oui,
je le fais en tout cas.
Je pense que théologiquement, en tout cas, Dieu a laissé le libre arbitre. Et puis, dans la Genèse, il laisse la gestion du monde aux hommes. Il n'interviendra pas pour régler nos problèmes, comme je viens de le dire. Donc, oui, il faut continuer à éduquer, il faut continuer à discuter, il faut continuer malgré tout ce qu'on voit, malgré qu'on pourrait se dire ça sert à rien parce qu'il suffit qu'il y ait un dictateur qui soit élu bientôt à nos portes et puis voilà. Mais bon, continuer parce que le monde est fou depuis le début.
Avant de se quitter, on pourrait parler, il y a quelques jours, enfin là, donc nous sommes le mardi, la semaine dernière, il y a 12 personnes qui sont mortes sur les bateaux. On parlait des dictateurs, ce sont des gens qui viennent d'Érythrée et du Soudan,
ouais.
Donc des gens qui sont ces deux pays dictatoriaux.
Ouais.
Dans une précédente association, vous œuvriez aussi comme ça pour les échanges internationaux.
Et je le fais toujours pour une association là, qui s'occupe de migrants.
Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, si on peut dire quelque chose? Parce que là, maintenant, il faut s'attaquer aux passeurs, Il y aura toujours des passeurs qui
remplaceront les passeurs. Il y aura toujours des passeurs. Mettre des frontières, on a vu avec la chute de l'Empire romain. L'Empire romain était formidablement puissant, mais il y avait des barbares qui avaient faim et ils ont envahi, c'est tout. Quand les gens n'ont rien à perdre, ils viendront, c'est clair. Ça ne sert à rien de mettre des frontières. Bon, ça, c'est mon opinion en tant que je ne suis pas plus...
Non, mais c'est une parole très forte qu'on porte à la radio.
Oui.
Je veux dire, aujourd'hui.
Donc, il faut réfléchir aux conditions qu'on met. Il faut comment intégrer les gens, comment les aider pour qu'ils restent à domicile. Ça serait quand même le mieux. Parce que eux, ça ne leur plaît pas. Je suppose que l'Africain qui vient en France,
oui, si on lui donne des raisons de rester là-bas, une vie sereine là-bas, il n'y a pas de raison qu'il vienne.
Voilà.
Il faudrait déjà qu'on arrête de piller leur richesse.
C'est ça. La coopération internationale, mais pas comme elle a été faite. Tout ça, c'est presque de l'utopie, mais c'est de l'utopie qui est réalisable dans les associations, effectivement.
L'utopie, à force de la rabâcher, des fois, elle devient réalité.
Il y a des gens qui y croient et puis qui œuvrent dans les associations. Et c'est pour ça que j'aime tellement les associations, même si des fois j'ai des...
Il faut avoir des coups de gueule quand même, c'est bien.
Voilà.
Non, mais c'est vrai qu'on les rencontre beaucoup. Je rappelle que pour les gens qui ne savent pas que la radio est située au Carrousel, donc dans l'ancien temple Bruès, et que se croisent dans ce lieu formidable, ce lieu par tous, la CIMAD, la CAT. Voilà, on a reçu il n'y a pas longtemps Anna Malry qui est venue nous parler de la CAT, de plein de mouvements. Et Pasteur Fréchet était là aussi pour la CAT, parce qu'il en a fait partie pendant longtemps. Que tous ces croisements d'aide à l'autre, à l'étranger, d'accueil, moi je l'ai découvert énormément dans le monde protestant. Vraiment, Yolande, ça a été peut-être le plus gros choc que j'ai eu sur le monde protestant. Bon, je vais de temps en temps au culte à Maguelone, mais c'est surtout cette générosité quand même qui est portée et cette envie d'accueil. Alors peut-être que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps M. Brugeron, qui est président du Secours catholique, qui est un homme formidable, qui en plus est ancien directeur d'hôpital, donc il a une vision sur la santé, je peux vous dire, anticapitaliste à mort. Peut-être qu'il y a ce même accueil chez les catholiques, je ne sais pas, mais ce que j'ai découvert du monde protestant ici, d'entraide et d'accueil, ça a été une très belle découverte. Oui.
C'est une conséquence du sacerdoce universel. Le protestant est un pape, la Bible à la main, dit-on. Donc, c'est-à-dire que le protestant prend ses décisions et a autant de pouvoir, entre guillemets, que le pape. Une des conséquences du sacerdoce universel, c'est de se dire, si je ne me bouge pas, personne ne le fait. Voilà. Ou c'est pas intéressant de compter sur l'autre. Donc, je pense que ça joue, cette idée du sacerdoce universel qui pourrait sembler un peu lointaine, mais qui...
Dernier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est que vous allez avoir une adresse qu'on communiquera lors d'une prochaine émission, qui sera un protestant peu... Non, on va la communiquer maintenant, mais elle va être disponible dans la semaine.
Un protestant peut en cacher un autre, tout ça attaché, sans trait d'union, sans rien,
radiofmplus.org. Je crois que ça sera la bonne adresse. On la mettra sur le lien du podcast, on la donnera à Yann pour qu'il nous la mette. C'est pareil, on est dans l'échange, là, vous attendez aussi que...
Oui, j'attends que les gens réagissent dès qu'ils ont envie de réagir, qu'ils envoient des mails. Les mails seront lus. S'il n'y en a pas trop, on répondra. S'il y en a trop, on essayera de répondre. Mais oui, ça serait vraiment très, très bien que les gens réagissent.
Écoutez, j'espère qu'on vous a donné l'envie d'écouter cette émission, donc qui va commencer aujourd'hui, le mardi 10, jour de l'anniversaire de Yolande Fourchard Gounel, et puis plein d'autres émissions, donc tous les mardis de 13h20 à 14h. Au revoir Yolande.
Au revoir Nathalie.
Et on réécoute votre super générique. À bientôt. Protestant peut en cacher un autre. Une émission préparée et présentée par Yolande Fourchard-Gounel.